Vous avez avec les populations, parce que vous êtes toujours entre collègues, aussi
surtout
vous êtes un peu dans la ville ou...
Alors évidemment, dans l'armée, quand j'étais dans l'armée, quand on allait dans un pays pour intervenir sur quelque chose, c'était rarement, c'est jamais dans un pays où ça va bien. Donc le contexte, il est spécial, on reste en microcosme, entre militaires, on se mélange très peu, on évite les contacts parce que souvent c'est dangereux. Donc dans l'armée, j'ai juste découvert des cultures différentes, légèrement en survolant, quoi, si on peut dire, c'est le cas de dire, au sens qu'on veut figurer, parce que j'étais pilote, donc je survolais aussi. Mais ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal de trucs, hein, sur juste le fait qu'il y ait des cultures différentes, qu'on ne pense pas tous de la même façon, que certaines choses qui sont valables chez nous peuvent être mauvaises ailleurs, ou l'inverse. Alors que quand on reste dans son pays, dans son microcosme, on ne se rend pas compte de tout ça, quoi. Donc déjà, ça m'a fait une certaine ouverture d'esprit, quand même. Et maintenant que j'ai changé de boulot, que je suis dans le civil, effectivement, il y a plus de contacts, beaucoup plus de contacts avec les populations les autochtones. Déjà dans notre travail même, sur les bases, sur chaque base où on est installé dans chaque pays, on travaille avec des locaux qui sont avec nous. Donc forcément, ça crée des liens, on discute ensemble au boulot, hors boulot, t'entends, il y a un petit pot, un anniversaire, un truc comme ça. Et voilà, c'est quand même plus sympa, ça, déjà. Il y a plus de contacts. Et donc, après, je sais pas, j'en ai eu tellement. J'ai fait une trentaine ou une quarantaine de pays, donc je sais plus trop. Je patauge un peu maintenant. Au début, quand on en a fait 4 ou 5, ça va, on est tout le temps passionné à dire, voilà, là, il se passait ça, là, il se passait ça.
Mais après, t'es habitué.
Mais après, arrivé un moment, on est noyé, quoi. Il y en a trop, ouais, on ne sait plus. Et même en France, je me sens comme un étranger, quoi. J'ai tellement vu à droite, à gauche et tout, que même quand je rentre maintenant ici, j'ai les mêmes sensations que quand je vais dans un pays étranger. Des fois, je suis choqué par les gens ici, au même titre que parfois, ça m'étonne à l'étranger. Il y a des trucs, des comportements qui m'étonnent. Bah, je ressens la même chose en France maintenant, quoi. Souvent, quand je rentre après une longue absence, je vais faire les courses avec ma femme et je me sens agressé, par exemple.
Ah bon ?
J'ai du mal.
Alors,
la première semaine, j'évite souvent de faire les courses la première semaine parce que ça me fait bizarre. Le comportement du français moyen m'agresse un petit peu.
C'est-à-dire ?
Ben, le fait de me faire bousculer dans les magasins avec le caddie pour les courses, y compris par des mémés qui vont absolument vouloir me passer devant à la caisse, machin. On ne trouve pas forcément ça dans tous les pays ou dans les autres pays. En France, c'est comme ça, quoi.
Les gens s'excusent pas.
Tu crois qu'à l'étranger, les
pas
gens
toujours,
sont plus...
Pas toujours. On n'est pas les plus polis du monde.
Oui.
On n'est pas les plus accueillants. On n'est pas les plus polis du monde, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on est étranger et qu'on ne connaît pas la France.
Oui, parce qu'on croit qu'en France, c'est le pays le plus gentil.
Ouais.
Parce que les gens disent « désolé tout le temps, excusez-moi, pardon » et tout.
Non, mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Moi, je... Okay. Là, je reviens d'Italie. J'ai fait... En juin, juillet, j'ai fait 2 mois en Italie... C'est dans le nord de l'Italie, qui est pourtant réputée pour être plus froide, moins accueillante que le reste, que le sud de l'Italie et tout. Bah, j'ai trouvé ça vachement plus accueillant que la France. Les gens beaucoup plus gentils, beaucoup plus polis. Jamais un coup de klaxon dans les rues. vous regardez le passage piéton, les gens s'arrêtent déjà bien avant pour vous laisser passer d'office, sans chercher à discuter ou quoi que ce soit. Ici, ici on frôle la mort à chaque passage piéton. Et encore, c'est pas le pire en Afrique. Par contre, les passages piétons, faut carrément les éviter. C'est carrément le chemin de la mort. Là-bas. Faut même pas les regarder, les passages piétons là-bas.
Ils ont juste là-bas.
C'est juste symbolique, mais faut pas s'en servir.
Pour la décoration de la rue.
C'est encore plus dangereux qu'ailleurs. Donc, ouais. Chaque pays a ses petites spécialités comme ça.
Ouais.
Moi, je ne vous connais pas, mais j'ai parcouru beaucoup de pays, surtout en Afrique, c'est ça ?
Avec mon boulot actuel, oui, beaucoup en Afrique. Ouais. Enfin, beaucoup.
Presque.
5, 6, 7, je sais pas.
Ouais. Et vous avez comparé des cultures différentes
Oui, déjà Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, pas du tout pareil.
C'est pas pareil. Mais...
Ah non, complètement différent.
Afrique du Nord, vous étiez ou...
Afrique du Nord, très peu. Je connais pas du tout le Maghreb, par exemple. Les pays du Maghreb, j'ai pas fait. J'ai fait la Libye, j'ai fait. À côté, c'est l'Égypte. Libye, Égypte. Après, j'ai fait tous les pays des Émirats. Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Abu Dhabi, Dubaï, Bahreïn. J'ai quasiment tous fait. Mais le Maghreb, non. Et après l'Asie, moi j'ai fait Birmanie. Et en Afrique, moi, j'en ai fait Congo, Cameroun, Gabon. Je suis allé une fois en Côte d'Ivoire, mais c'était avec l'armée. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Djibouti, Éthiopie. Je suis allé où encore ? Je sais plus.
Dans l'Amérique ?
Ah non, non. Bah non. Non, c'est un continent. L'Amérique du Nord m'attire pas particulièrement.
Non, je parle
du continent. Ah oui, le continent m'intéresse. Ouais. Ouais. C'est plus les gens qui me laissent un peu froid. J'ai pas trop envie. Puis ils nous ressemblent tellement. Ils ont le même défaut que nous que je suis pas très passionné par.
Ils ont des armes surtout. C'est ça.
Ça doit être beau sinon à aller visiter l'Amérique du Nord. Ça doit être le Grand Canyon, tout ça. Ça va être super. Mais je sais pas, ils me font un peu peur les Américains. Donc.
Mais vous choisissez vos missions ou elles vous sont attribuées
Non, normalement elles nous sont attribuées maintenant.
Mais si vous avez
chaque fois que faire se peut, dans notre boulot, ils savent, telles personnes sont plus aptes à aller là ou préfèrent aller là et tout, tant qu'ils peuvent.
Oui,
oui. Ils nous envoient là où on préfère aller, tant qu'ils peuvent. Bon, en ce moment, ils peuvent plus. Là, c'est la crise, donc on fait un peu comme on sauve les meubles. Il y a plus une petite crise dans le pétrole, donc on subit un peu. Mais...
C'est un travail diplomatique, en fait.
Non, pas du tout.
Non, non, non. Enfin, peut-être pas vous, mais les personnes qui voyagent avec vous, ce sont...
Après, bon, tous les gens qui sont comme moi sont des expatriés, donc forcément, quand on est à l'étranger, ben, étant expat, on représente un petit peu la France, donc, et on est beaucoup regardé aussi. Dès qu'un expatrié fait une bêtise, ça y est, tout de suite, c'est... Bah, c'est comme ici, ça se passe exactement de la même façon qu'en France, dès qu'un maghrébin fait une bêtise, ou un black fait une bêtise, ou un juif, ou un ça y est, tout de suite, c'est une communauté qui est visée. Bah, l'étranger, c'est pareil pour nous. Voilà. Dès qu'un Français fait une connerie, boum, tout de suite, c'est la communauté française qui est agressive, qui est ceci, qui est cela. On est très, très, très observé, très surveillé, mais ça, c'est valable partout et pour tout le monde, de toute façon.
Personne, que ce soit en société.
Et donc, notre rôle, entre guillemets, d'ambassadeur se limite juste à ça. C'est juste un comportement à avoir, d'être bien avec la population locale, de ne pas, voilà, pas trop se comporter. Il faut être bien partout, quoi, sinon. Oui.
Alors, comme tu es allé dans. Tu as été dans plusieurs pays, qu'est-ce que tu penses de la migration?
Immigration.
En France, parce que tu étais dans les...
Immigration quoi, en France ou en Europe ou enfin, ce qui se passe actuellement
Surtout dans les pays francophones en Afrique, les gens qui viennent en France, ils ont droit parce que vous êtes les colonisateurs.
Oui.
Alors, ils ont le droit de venir en France parce que
oui, parce qu'après tout, nous, on a fait la même chose pendant un certain temps chez eux. Oui et non. Il y a à boire et à manger dans tous les domaines. Il y a un certain droit. Ça, c'est l'État.
D'accord. Mais et en Europe, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il y a beaucoup... Ça va, ça marche,
je crois. Oui, ça marche. Je ne sais pas trop quoi dire, parce que c'est un sujet qui est hyper délicat. Et on ne peut pas refuser à des gens, effectivement, qui ont envie de bouger et tout. Surtout, moi, je suis mal placé pour juger, éventuellement, parce que moi, je n'arrête pas de bouger dans tous les pays. Donc, je ne peux pas reprocher à quelqu'un d'un autre pays de vouloir lui aussi aller bouger dans d'autres pays pour s'épanouir, pour trouver un boulot. C'est ce que je fais, moi, donc... je serais mal placé de dire que ou les Africains ou les Maghrébins ou je sais pas qui n'avaient pas le droit de venir chez nous pour faire la même chose.
Mais s'il va après, tout gagner.
En fonction des contextes, c'est bizarre aussi parce que il y a des factures qu'on paye des années plus tard déjà, de par notre comportement passé, les colonies, anciennes colonies, tout ça et tout. Maintenant, il y a des factures à payer, on a du mal à les payer, il faut assumer certains trucs. Il y a des trucs qu'on n'a pas bien fait, donc ça nous retombe dessus. Et aussi les pays de leur côté, moi ce que je vois quand je suis en particulier en Afrique, que c'est là que je passe beaucoup de temps en ce moment, il y a un moment, il faut savoir se prendre en main, justement comme le Kenya fait par exemple, c'est un bon exemple je trouve le Kenya. à un moment, le Kenya a arrêté de faire des reproches à l'Angleterre en disant « ancienne colonie anglaise, c'est de votre faute, donnez-nous ceci, faites-nous ceci ». Non, le Kenya se débrouille tout seul maintenant, depuis un moment d'ailleurs. Bah, ce n'est pas le cas dans, dans beaucoup de pays en Afrique.
Surtout en Libye et puis en Syrie.
Beaucoup de pays qui voudraient encore se comporter comme « on a besoin de ceci, on a besoin de cela ». Et puis, voilà, les aides, on a l'impression qu'elles sont gaspillées souvent, on a l'impression que ça ne va pas dans les bonnes poches. Et puis voilà, au fur et à mesure, ça, les gens se fatiguent, on en marre d'être tout le temps en position de qu'on leur demande des aides, de l'argent. À un moment, faut savoir être autonome, quoi.
Mais le problème aussi, enfin, moi, je pense que, d'une part, il y a la corruption. Ah, ouais. Ça, c'est quelque chose...
C'est un facteur très important dans le fait que ça se passe mal, voilà. Justement.
Ah, oui. Parce que la corruption, déjà, elle est liée au fait que, justement, les anciens colonisateurs veulent garder la même... C'est-à-dire que même si...
J'allais le dire, la corruption, elle est à deux niveaux. Voilà. Elle est au niveau même du pays, parce qu'il y a toujours dans tous les pays des gens corruptibles et corrompus. Et il y a aussi une moitié de corruption qui a été plus ou moins glissée dans le pays et tout, parce que ça a arrangé tel ou tel autre pays ancien colonisateur ou pays qui voudrait l'être. Hein, je pense aux États-Unis maintenant qui essaient de s'imbriquer partout en Afrique pour justement le pétrole, pour des trucs comme ça. Les Chinois. Voilà, ça paye beaucoup, ça achète. Et puis les gens savent savoir. Et puis,
donc il y a ça, il y a la corruption, mais il y a aussi le fait que... Alors ce qu'on appelle la mondialisation, c'est le problème qu'on détruit en fait les pays. C'est-à-dire qu'on leur... comment ça s'appelle ?
Exportation ?
Non, mais on les... en fait, on les... tout ce qui est minier, en fait, tout ce qui est pétrole, voilà, on les...
C'est pas exploite comme...
Elle voulait dire un terme plus fort que ça. Les piller, peut-être.
Voilà, c'est pas piller.
Peut-être pas aussi fort, mais...
Mais tellement que... Et du coup...
Bien
ça crée le problème de la pauvreté, elle s'installe au bout d'un moment.
Oui, c'est par exemple
donc,
comme
l'écart entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus, et les gens qui veulent s'en sortir, ils se disent qu'ailleurs, ils pourront. Alors que si on laissait le travail se faire dans le pays, laisser les gens cultiver, exploiter leurs propres ressources, ils ne viendraient pas à l'extérieur pour travailler.
Non, je crois pas, parce que par exemple, l'or en Congo, par exemple, c'est que la famille de président et sa famille qui a toutes les ressources. Et c'est
c'est comme ça dans la plupart des pays africains.
Comme le diamant.
Ils sont assez corruptibles et corrompus.
Voilà,
et nous, on entretient
parce
que ça nous arrange bien. C'est une impression que j'ai également.
C'est pas le
Maintenant, je vais vous donner un exemple, un autre exemple, à l'opposé. Sur les îles Shetland, c'est-à-dire, je sais pas si vous savez où c'est, au nord de l'Angleterre, bien au nord, là, il y a les îles Shetland, là aussi, il y a du pétrole. Bon, ben. L'exploitation de pétrole se fait, comme partout ailleurs dans le monde où il y a du pétrole. Et les îles Shetland ont une courbe de croissance comme ça. Ça se passe super bien, c'est bénéfique à la population locale. Et pourquoi ?
Parce qu'ils sont européens.
Peut-être.
Oui, parce que aussi, ils ont...
On a tendance, vous dites qu'il faut que les Africains soient autonomes, qu'ils se prennent en main, mais aussi les Occidentaux qui pensent qu'ils ne sont pas capables.
Peut-être que là, sur les îles Shetland, il n'y a pas autant de gens qui sont corruptibles. Peut-être qu'ils ont une mentalité qui fait qu'on ne cherche même pas à les corrompre, parce que c'est pas possible ou parce que voilà, c'est pas dans l'air du temps ou je sais pas.
Oui, parce que c'est
en Afrique, tout le monde se bat pour avoir le pouvoir, le garder le plus longtemps possible. On voit bien que si ça s'appelle démocratie, c'est toujours la même famille qui reste au pouvoir tout le temps. Donc quoi penser au bout de 30 ans où c'est toujours la même famille qui gère le pays, à un moment on se dit c'est peut-être plus forcément une vraie démocratie quoi, il y a un doute quand même. Donc c'est pas le même contexte. Effectivement, on se sert de ça, bien sûr. Mais à la base, le problème, il vient d'où ? De nous, d'eux.
Ben, je pense qu'à la base, le problème, c'est qu'il y a quand même des Occidents.
C'est un peu mélangé, quoi.
Nous, ben, c'est mélangé, certes, mais...
Souvent, on profite des situations.
Voilà, oui, ils ont profité aussi, ouais. Mais c'est quand même eux qui ont décidé, voilà, d'explorer le monde et puis de s'approprier des territoires.
Ouais. J'ai un autre cas qui est plus parlant, qui est en Afrique, celui-là. C'est la Guinée équatoriale. Il y a du pétrole aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Guinéens ? L'argent dans les caisses de l'État. On développe en premier les écoles. On développe toutes les infrastructures hospitalières, machin et tout, pour les soins, pour la population. Et le pays, ensuite, le réseau routier. Pour favoriser donc les échanges, l'économie et tout. Et le pays, pff, il a une courbe de croissance comme ça. Si tout se passe bien en Guinée équatoriale et que personne ne leur met des bâtons dans les roues, ils sont en train de devenir autonomes, complètement autonomes. Dans 20 ans, ils font partie des patrons de l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas autant de corruption qu'ailleurs, parce que ceci, parce que cela, tout se met en place normalement et tout. Et pourquoi là, ça marche, et pourquoi pas ailleurs ? J'étais au Gabon pendant 7 ans, on sent bien que les familles au pouvoir gabonaises n'ont pas beaucoup, très envie de développer les écoles avec des diplômes